Le journal Bruno Duvic.
Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans le journal de 13h. Au sommaire aujourd'hui, le Nobel d'économie pour une Française, Esther Duflo, primée pour ses travaux sur la pauvreté, primée avec les Américains Abhijit Banerjee et Michael Kremer. Laurent Kramer nous raconte dans un instant. Un match sous très haute tension, France-Turquie de football, ce soir à Saint-Denis, en pleine offensive turque en Syrie. Quelques politiques appellent à l'annulation du match. Pas question pour l'instant, disent les organisateurs. Le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, renonce à assister au match. La Turquie au cinquième jour de son offensive en Syrie, au sixième jour même. L'armée de Damas vient en appui aux Kurdes. Nous ferons le point de la situation militaire avec Aurélien Colli, l'humanitaire avec notre invité, responsable Moyen-Orient de Médecins du Monde. Que peuvent faire les Occidentaux pour faire baisser la pression? Et puis l'archive du lundi, quand les Kurdes abandonnés aujourd'hui libérer Kobané des mains de l'État islamique. Le Brexit au 31 octobre est la priorité du gouvernement. Les mots de Boris Johnson prononcés par la reine d'Angleterre ce matin. C'est le traditionnel discours pour la rentrée parlementaire à Westminster. En Europe encore, jusqu'à 13 ans de prison pour les leaders indépendantistes de Catalogne, 2 ans après la tentative de sécession. Le voile n'est pas ce qu'on peut souhaiter pour la société française. Après ceux de Jean-Michel Blanquer, les propos de Bruno Le Maire ce matin, tout le gouvernement est-il sur cette ligne? Nous verrons cela. À droite, Christian Jacob appelle sur France Inter à l'interdiction du voile lors des sorties scolaires. Quel avenir pour l'arrêté anti-pesticide dans la commune de Langouette, celui qui a lancé le débat? Audience ce matin au tribunal administratif de Rennes. Bonjour Sandy Dauphin.
Bonjour.
Sandy, vous y avez assisté. Que retient-on?
Oui, le rapporteur public a demandé l'annulation de l'arrêté anti-pesticide du maire de Langouette. Son avis est souvent suivi, mais pas toujours. Décision attendue dans 15 jours.
Et vous nous donnerez les détails. Voilà qui nous mène naturellement à la Terre au carré, à 13h30, tout à l'heure. Bonjour Mathieu Vidard.
Bonjour Bruno.
Quel est le programme?
En 2018, le Parlement européen s'est prononcé pour l'interdiction de la pêche électrique en Europe, mais les Pays-Bas viennent d'annoncer vouloir obtenir l'annulation de cette interdiction. On en parle avec Claire Nouvian, la fondatrice de Bloom, qui a mené le combat.
01 45 24 7000 pour toutes vos questions à Mathieu Vidard et son invité. Avant cela, Astérix, le nouvel album, sort la semaine prochaine. Les premiers détails grâce à Jacqueline Pétrose, quand la fille de Vercingétorix, Térébenthine, en pleine crise d'adolescence, en fait voir de toutes les couleurs à Obélix et Astérix. Le 13h, vous avez le programme, c'est parti.
France Inter.
Il y a du nouveau au prix Nobel d'économie. Une femme primée, ce n'est pas une libérale, et elle est française. Esther Duflo, récompensée avec 2 autres chercheurs, récompensée pour leurs travaux sur la lutte contre la pauvreté. Les 2 autres sont américains Abhijit Banerjee, Michael Kremer. Première réaction de la française ce matin, en anglais, la langue de l'économie. Et puis c'est vrai qu'Esther Duflo vit depuis de longues années à Boston, États-Unis.
C'est vraiment incroyable. Pour vous dire la vérité, je ne pensais pas que ce serait possible de gagner le prix Nobel d'économie avant d'être bien plus âgée. C'est un changement pour le monde, dans le domaine économique, au-delà de nos travaux à chacun. C'est un travail collectif incroyable. Cela traduit le fait que c'est un mouvement qui nous dépasse.
Et nous sommes ravis d'avoir cette opportunité de représenter l'économie. Merci Laetitia Gaillet pour cette traduction en direct dans ce début de journal de 13h. Elle parlait de son âge, elle a bientôt 48 ans, Esther Duflo, elle les fêtera dans quelques jours. Bonjour Laurent Kramer.
Bonjour Bruno.
Esther Duflo, qui est-elle Laurent et comment résumer ses thèses en quelques mots?
Eh bien c'est une pionnière de l'évaluation des politiques de développement. Comment lutter efficacement contre la pauvreté, le pragmatisme plutôt que l'idéologie. Âgée de 48 ans, vous l'avez dit, l'économiste française enseigne dans la prestigieuse institution scientifique du MIT, à Boston donc, aux États-Unis. Ses travaux lui ont valu en 2013 d'être choisie par la Maison Blanche pour conseiller directement Barack Obama sur les questions de développement et de pauvreté. Lorsque l'on parle pauvreté, comment sortir des dogmes, de la morale, de la politique pour mesurer l'efficacité d'une politique de développement? Esther Duflo a mis au point des protocoles scientifiques comme le ferait un biologiste. L'expérience concrète et le travail de terrain des ONG est-il plus efficace, par exemple, de distribuer des ordinateurs ou de mettre en place du soutien scolaire pour lutter contre les inégalités scolaires en Inde? Faut-il donner ou vendre à un prix même symbolique, des moustiquaires pour réduire le paludisme? Eh bien Esther Duflo mesure et met en lumière que l'évaluation scientifique de l'efficacité des politiques pour lutter contre la pauvreté est nécessaire pour lutter et se débarrasser durablement de la pauvreté en 2 décennies seulement. Cette approche, basée sur l'expérience, a transformé l'économie l'économie du développement, conclut le prix Nobel.
Merci Laurent Kramer. Voilà ce qu'on pouvait dire donc sur ce prix Nobel attribué ce matin, prix Nobel d'économie à la française Esther Duflo. Voilà un match qui tombe mal. France-Turquie, éliminatoire de l'Euro 2020 ce soir à 20h45 à Saint-Denis. France-Turquie, alors que pour le sixième jour, la Turquie mène une opération militaire qui menace de semer le chaos en Syrie. Ce match peut-il se dérouler dans des conditions normales? Certains appellent carrément à son annulation. C'est le cas du leader centriste Jean-Christophe Lagarde.
Ce salut militaire pendant les hymnes qu'ils reproduisent dans les vestiaires après leur match contre l'Albanie en soutien à leur armée. De qui le sang coule en ce moment? De ceux qui ont combattu à nos côtés pour éliminer les auteurs des attentats de novembre 2015 à Paris. C'est plus de 10 000 morts kurdes qui sont tombés là-bas pour nous aider et pour nous éviter à nous de faire la guerre en direct. Et aujourd'hui, les Turcs sont en train de massacrer ces gens-là.
Jean-Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères, renonce à aller au match. Est-ce que vous invitez les autres membres du gouvernement à faire pareil, à rester chez eux?
Jean-Yves Le Drian a raison et j'espère qu'aucun représentant de la République française ne sera présent à un moment de crise gravissime. De plus de 100 à 150 000 personnes sont sur les routes. Des avions bombardent des civils. Ces civils qui sont nos amis et nos alliés. Évidemment qu'on ne peut pas accepter qu'un match de foot devienne un moment de propagande au profit de massacreurs.
Et Jean-Christophe Lagarde parle d'un salut militaire. On éclaire cela dans un instant. À part lui, les voix qui appellent à l'annulation viennent de l'extrême droite. Jordan Bardella, Nicolas Dupont-Aignan, mais aussi Jean-Luc Mélenchon. Bonjour Bruno Salomon.
Bonjour Bruno.
Spécialiste foot à France Inter. Bruno, est-ce qu'une telle annulation est possible et envisagée par les organisateurs?
Alors soyons clairs, cette demande d'annulation ne verra pas le jour. Nous venons de passer quelques coups de fil ce matin et on nous explique de sources fédérales à la Fédération Française de Foot que l'idée d'une annulation n'est absolument pas dans les tuyaux. Une autre personne nous a indiqué que l'idée était saugrenue et que le football ne peut pas être et ne peut pas prendre en otage, malgré un contexte géopolitique un peu tendu. Ça ne peut pas prendre cette partie de football en otage. En tout cas, l'UEFA, l'instance européenne, a indiqué à nos confrères du Huffington Post que le match allait bien se tenir. Instance européenne qui a du travail avec la Turquie, elle va ouvrir une instruction après le fameux salut militaire des footballeurs turcs lors du match de vendredi dernier face à l'Albanie, geste fait par deux fois sur le terrain et après photo de groupe dans le vestiaire. C'est ce salut militaire qui crispe vraiment, il y a beaucoup de tensions autour de tout cela. Certains joueurs comme Gundogan ou encore Emre Can ont nié toute intention politique dans ce geste, mais ils n'expliquent pas non plus ce que ça signifie. Vendredi dernier, Genk Tosun, le joueur d'Everton, a posté la photo du salut militaire avec cette inscription: pour notre nation et surtout pour ceux qui risquent leur vie pour notre pays. Chacun peut se faire son avis, Bruno.
Et la présence des forces de l'ordre est étoffée ce soir. Ils seront 1400 à assurer la sécurité contre 1200 habituellement, 200 de plus. Au plan sportif, les Bleus peuvent se qualifier dès ce soir pour l'Euro s'ils gagnent et même en cas de match nul ou de défaite. Mais ça dépendra alors des autres matchs. En tout cas, c'est le sixième jour de l'offensive turque dans le nord de la Syrie et la guerre menace de prendre un peu plus d'ampleur. Rappelons les buts de guerre. La Turquie, juste au-dessus de la Syrie sur la carte, veut conquérir une portion de territoire dans le nord de la Syrie, y placer une partie des 3,5 millions de réfugiés qui vivent en Turquie et en chasser les Kurdes qui tiennent les lieux aujourd'hui, Kurdes vus à Ankara comme des terroristes. La conséquence, c'est une crise humanitaire, on en parle dans un instant. Le risque de voir des centaines de djihadistes de Daesh s'échapper, c'est là pour l'instant qu'ils sont retenus dans le nord de la Syrie. Et la guerre menace de prendre un peu plus d'ampleur parce que l'armée syrienne s'en désormais, elle a conclu un accord avec les Kurdes pour contrer l'offensive de la Turquie. Bonjour Aurélien Colli.
Bonjour Bruno.
Aurélien, vous êtes dans la région, les Syriens reprennent le contrôle de la situation.
Oui, et le déploiement de l'armée de Bachar al-Assad va vite. En tout cas, il est annoncé comme rapide. Dès hier soir, des unités dans des villes clés, proches du front, là où les combattants kurdes affrontent depuis jeudi l'armée turque et ses milices supplétives. Des localités comme Tel Tamer ou Ayn Issa pour contrer l'offensive vers l'est, ou Kobané et Manbij à l'ouest. L'armée syrienne qui s'est aussi déployée ce matin dans deux grandes villes du Kurdistan syrien où il n'y a pas de combat direct entre Kurdes et Turcs. Kamishli, où le drapeau national syrien a été hissé en fin de matinée, et Asaké aussi, la capitale de cette région, des villes dans et autour desquelles il y a de nombreuses prisons de djihadistes ou des camps de déplacés de proches de djihadistes, dont beaucoup d'étrangers. Pas de nouvelles évasions annoncées ce matin à la faveur de ce basculement de ces dernières heures. En théorie, ces prisons et ces camps devraient passer sous le contrôle du régime syrien, mais les forces kurdes viennent d'annoncer qu'elles gardaient le contrôle de ces lieux. Et puis dans l'après-midi, le poste frontière de Fishkabor, là où on se trouve, le seul point de passage vers le Kurdistan irakien, qui jusque-là a été contrôlé par les Kurdes de Syrie, ce point de passage est aussi censé passer sous contrôle du régime de Bachar al-Assad.
Aurélien Colli avec Benjamin Chauvin pour France Inter en direct de Fishkabor, Kurdistan irakien, où il est plus sûr de se positionner désormais face à l'avancée des combats. Alors il y a dans cette région des milliers de combattants de l'organisation État islamique, Daesh, qui risquent de profiter de cette occasion pour s'enfuir. Les Kurdes affirmaient hier que 800 femmes et enfants proches de djihadistes s'étaient enfuis d'un des camps de la région, celui d'Aïn Issa. Bonjour Sophie Parmentier.
Bonjour.
Sophie, vous êtes entrée en contact avec la mère d'une de ces femmes qui a eu sa fille au téléphone.
Louisa, qui vit en France, m'a raconté quelle nouvelle sa fille de 24 ans lui a donné hier lors de messages échangés par téléphone. Sa fille qui avait rejoint Daesh, qui était emprisonnée dans ce camp kurde de Aïn Issa depuis janvier 2018 et jusqu'à hier.
Ma fille me disait que les bombes tombaient vraiment très près des tentes du camp de Aïn Issa. Et hier, j'ai reçu des messages très inquiétants de ma fille, me disant que c'était la débandade dans le camp, que tout le monde courait partout. Et les Kurdes leur ont dit de sortir du camp. Elles sont sorties, ma fille a un bébé de 20 mois. Elle était avec des Françaises qui ont aussi des enfants. Et comme tout autour du camp de Aïn Issa, il n'y a rien, il n'y a pas de nourriture, il n'y a rien, il n'y a pas à manger. Certaines d'entre elles sont revenues au camp et cherchaient à manger. Et c'est là qu'elles se sont rendues compte que les Kurdes brûlaient les tentes en fait. Donc là, ma fille, avec son bébé de 20 mois, d'autres femmes françaises, des enfants, se retrouvent autour du camp de Aïn Issa dans une région désertique. Elles sont sans eau, sans nourriture, sans abri, seules dans le désert syrien.
Louisa appelle le gouvernement français à rapatrier sa fille et son petit-fils. Le même appel au secours est lancé par de nombreux autres grands-parents français désespérés de voir leurs petits-enfants pris une nouvelle fois au piège de la guerre.
Merci Sophie Parmentier. Depuis le début de l'offensive mercredi, 130 000 personnes ont dû fuir les combats, 130 000 déplacés selon l'ONU. Parlons de cette situation humanitaire avec l'invité du journal de 13h. Bonjour Violaine Gagné.
Bonjour.
Vous êtes responsable Moyen-Orient, Médecins du Monde. Y a-t-il des organisations humanitaires dans la zone de combat ou à proximité? Et est-ce qu'il est possible de travailler pour vous, humanitaire?
Alors, il est extrêmement compliqué de travailler actuellement en Syrie. Malheureusement, ce sujet n'est pas nouveau. Depuis le début de la crise, l'accès au territoire syrien est extrêmement compliqué. Et aujourd'hui, avec les bombardements, avec aussi les différentes parties au conflit présentes sur cette zone-là, les ONG ont du mal à avoir accès aux populations. Cela signifie donc que l'assistance humanitaire est malheureusement extrêmement réduite pour, comme vous l'avez mentionné, 130 000 voire 160 000 déplacés actuellement. Et ce chiffre pourrait monter dans les heures, dans les jours qui viennent à 400 000 personnes déplacées, plus les populations qui sont coincées dans les villes sous les bombardements.
Ça signifie qu'il y a encore beaucoup de civils dans la région qui risquent d'être coincés dans des bombardements?
Alors oui, bien évidemment, on n'a pas de chiffres, il n'y a pas d'estimation. Cette zone est extrêmement large. Comme vous le savez, le conflit en Syrie a commencé il y a maintenant de nombreuses années. Donc c'est un conflit dans le conflit, une crise dans la crise. Des populations qui ont été déplacées une fois, deux fois, trois fois. Donc nous n'avons pas d'estimation précise des nombres. Mais malgré tout, effectivement, beaucoup de personnes, beaucoup de femmes enceintes, d'enfants, de personnes vulnérables sont actuellement seules, isolées, avec une assistance humanitaire, encore une fois, extrêmement réduite.
Avez-vous connaissance, Violaine Gagné, d'actes de guerre contre des civils, que ce soit de la part des Turcs ou de la part des Kurdes?
Alors les chiffres, nous les avons entendus, on parle actuellement de une cinquantaine de civils qui ont été tués. Malheureusement, dans une situation comme cela, la population civile va sans doute aussi connaître des conséquences dramatiques pour elle et pourrait donc, via les bombardements, via aussi les déplacements, les populations n'ont pas forcément accès à l'eau et à la nourriture, mais aussi aux centres de santé. Pour Médecins du Monde, c'est quand même quelque chose d'extrêmement important. Peuvent là aussi connaître des morts, des décès extrêmement importants. Par exemple, beaucoup d'hôpitaux ont été détruits ou partiellement détruits, ce qui signifie qu'il n'y a plus de groupe électrogène, donc plus d'électricité, donc on ne peut pas opérer, pas d'eau, pas de médicaments, pas d'équipement médical. Donc oui, la situation pour la population civile est extrêmement préoccupante.
Question très délicate, est-ce que vous, les humanitaires, vous faites une différence de traitement entre les combattants, les civils et d'éventuels djihadistes ou proches de djihadistes?
Le travail humanitaire, c'est l'impartialité, c'est-à-dire qu'on est là pour soigner les populations, quelles qu'elles soient, d'où elles viennent. Nous respectons le droit international humanitaire, donc nous ne faisons aucune distinction, d'autant plus dans la santé, nous sommes là pour soigner les gens, pour qu'ils restent en vie, donc nous ne faisons pas de distinction claire, évidemment.
Merci Violaine Gagné d'avoir répondu à nos questions et on retient notamment cette estimation, en étant conscient que c'est une estimation peut-être jusqu'à 400 000 personnes qui risquent d'être déplacées par les combats dans les jours à venir. Alors la France Toulouse condamne l'offensive dans les termes les plus fermes, dixit l'Elysée. Elle risque, cette offensive, de créer une situation humanitaire insoutenable. Priorité absolue pour Paris, empêcher la résurgence de Daesh dans la région. La France doit prendre des mesures pour garantir la sécurité de ses personnels civils et militaires encore présents sur place. La France et l'Allemagne suspendent leurs exportations d'armes vers la Turquie. Ça ne nous fera pas reculer, répond d'ores et déjà le président turc Erdogan. Bonjour Bertrand Galichet.
Bonjour Bruno.
Les Occidentaux ont-ils réellement des moyens de pression efficaces sur la Turquie ?
C'est presque un constat d'incapacité à agir qui a été fait ce matin à la réunion des ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne à Luxembourg. Le principal moyen de pression étant de cesser les livraisons d'armes à la Turquie, vous venez d'en parler, ce que plusieurs pays dont la France et l'Allemagne ont déjà annoncé. Effectivement, l'Italie, l'un des principaux fournisseurs d'armement au régime d'Ankara, a appelé hier à un moratoire européen sur les ventes d'armes à la Turquie. Mais comme l'a rappelé ce matin Josep Borrell, désigné au poste de haut représentant pour la politique étrangère dans la future Commission européenne, ces ventes d'armes relèvent de la souveraineté de chaque État membre et les accords ont été conclus pays par pays. Paris souhaite que l'Union européenne définisse rapidement une position commune. La France demande également une réunion de la coalition internationale contre l'État islamique, dont font partie les États-Unis et la Turquie, une façon de mettre le régime de Recep Tayyip Erdogan face à ses contradictions, puisque son offensive contre les Kurdes risque que de favoriser la renaissance de Daesh. Cela dit, la Turquie semble déjà inflexible et d'éventuelles sanctions économiques paraissent bien difficiles à mettre en œuvre.
Un dernier éclairage depuis le début de cette offensive. Cette phrase revient régulièrement. On abandonne les Kurdes qui nous ont aidés dans la lutte contre Daesh en Syrie. Symbole de cela, la ville de Kobané. Deux longs mois de bataille, puis cette ville libérée par les Kurdes. C'est l'archive du lundi. Écoutez le récit que faisait de cette libération l'envoyé spécial de France Inter, Omar Waman. C'était le 28 janvier 2015.
C'est une foule immense qui est venue se masser le long de la frontière pour fêter la libération de Kobané. Des Kurdes venus des quatre coins de la Turquie pour soutenir les réfugiés et condamner le terrorisme. Hassan, professeur d'arabe à Kobané, tient dans sa main droite le drapeau du Kurdistan.
J'ai le sentiment que ma ville de Kobané a été violée. Ces gens-là salissent la religion. Je suis musulman, grâce à Dieu. Je prie, je fais le ramadan, mais je n'ai rien à voir avec eux. Ils font détester notre religion et au nom de l'islam, ils détruisent l'islam.
L'ambiance est bon enfant et permet aux habitants de Kobané d'oublier le temps d'un après-midi, les malheurs de ces derniers mois. Déjà là, une jeune maman porte dans ses bras un bébé de 9 mois.
Je suis ravie. J'aimerais que tout le monde puisse rentrer à la maison. On m'a dit que la nôtre était en ruine. Si Dieu le veut, la Turquie, les États-Unis vont nous aider à reconstruire notre ville. J'espère qu'ils vont nous aider.
Voilà pour une partie de ce reportage d'Omar Waman. C'est bien une archive, hein. Ça pourrait être un reportage d'aujourd'hui, vu la qualité sonore, mais cela date d'il y a un peu plus de 4 ans, 28 janvier 2015. La libération de la ville de Kobané par les Kurdes. Merci aux camarades de l'INA qui nous ont permis de réentendre ce reportage. L'Europe, donc relativement impuissante face à la guerre en Syrie, Bertrand Galichet nous le disait il y a un instant, et dans un registre différent, l'Europe doit affronter deux foyers de déstabilisation au sein de ses frontières. Le Brexit, on y revient, et la Catalogne d'abord, cette riche région du nord-ouest de l'Espagne, à deux doigts de la sécession il y a 2 ans. Les meneurs ont été jugés en début d'année. La sentence est tombée ce matin. 12 leaders étaient jugés, 9 sont condamnés à des peines de prison. Bonjour Marie-Hélène Ballestero.
Bonjour.
Des peines de prison jusqu'à 13 ans pour l'ancien vice-président du Parlement régional.
C'est bien ça, des peines qui sont quand même moins lourdes que prévues, car les inculpés ont échappé à une condamnation pour acte de rébellion qui impliquait des peines allant jusqu'à 25 ans de prison, mais elles sont tout de même importantes. Alors c'est le délit de sédition qui a été retenu avec des peines allant de 9 à 13 ans de prison. En tout, ce sont 9 condamnations fermes, et comme prévu, comme vous le disiez, c'est Oriol Junqueras, l'ancien numéro 2 de l'exécutif catalan, qui écope de la peine la plus dure, 13 ans de prison, suivi des 3 anciens conseiller du gouvernement catalan, Romeva, Turull et Bassa, qui écopent de 12 ans. 3 autres accusés ont été condamnés à des amendes. Alors ces peines sont nettement inférieures à celles réclamées par le parquet, mais elles vont forcément avoir un très fort impact en Catalogne et insuffler un nouvel élan à ce mouvement indépendantiste catalan. D'ailleurs, en ce moment, il y a de nombreux rassemblements et manifestations dans toute la Catalogne, et notamment dans les rues de Barcelone. Et quant aux réactions politiques, elles ne se sont pas fait attendre. Les indépendantistes journalistes parlent de vengeance, d'insultes à la démocratie et à la société catalane. Quant au chef du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez, il vient de comparaître depuis le palais de la Moncloa à Madrid. Il a rappelé que l'Espagne est une démocratie consolidée et qu'ici, personne n'est au-dessus de la loi.
Merci Marie-Hélène. Et la liaison satellite a tenu jusqu'au bout. Elle a menacé de rompre à plusieurs reprises. Une journée de grève générale est prévue vendredi à Barcelone. C'est une drôle de position que celle de la reine d'Angleterre, rentrée parlementaire ce matin à Westminster. C'est la reine qui prononce le discours de rentrée. À cette occasion, elle reprend à son compte les mots et le programme du chef du gouvernement. Bonjour Antoine Gignot.
Bonjour.
En direct de Londres, la reine en quelque sorte porte-parole de Boris Johnson ce matin pour dire qu'un Brexit au 31 octobre restait la priorité du gouvernement.
Absolument. Quelques phrases très courtes sur le Brexit, mais sans ambiguïté. La priorité du gouvernement a toujours été d'assurer le départ du Royaume-Uni de l'Union européenne le 31 octobre, avec de nouveaux régimes sur la pêche, sur l'agriculture, la fin de la libre circulation des personnes et la mise en place d'une immigration contrôlée. Il y aura, à l'avenir, explique la reine, un nouveau partenariat avec Bruxelles, basé sur le libre-échange et des mesures destinées à assurer la stabilité des services financiers. Dans la salle, Boris Johnson opine doucement de la tête. Ce programme, c'est le sien, c'est lui qui l'a écrit avec ses conseillers, en choisissant délibérément de ne pas trop développer le Brexit. Il y a glissé une série de promesses, l'amélioration du système de santé, l'accélération du développement du haut débit, des mesures pour l'industrie aérospatiale, une réforme des chemins de fer, des lois environnementales, mais tout cela reste de la théorie, parce que Boris Johnson n'a aujourd'hui pas la majorité à la Chambre des communes, et donc aucune possibilité de mettre en œuvre ses promesses.
Antoine Gignot en direct de Londres pour France Inter. En France, au départ, il y a l'initiative largement condamnée d'un élu du Rassemblement National. Sa conséquence paradoxale, c'est que le ton se durcit à droite et dans une partie du gouvernement contre le port du voile. Rappel des faits, vendredi, séance du Conseil Régional de Bourgogne-Franche-Comté, une femme voilée y assiste comme accompagnatrice scolaire avec des enfants. Un élu du Rassemblement National demande qu'elle retire son voile. Le ton monte au sein de l'Assemblée. Les enfants sont choqués. Depuis, à droite et dans une partie du gouvernement, on déplore l'attitude de l'élu d'extrême droite avec un gros mais. Écoutez Christian Jacob, le nouveau patron du Parti Les Républicains, ce matin sur France Inter.
Moi, ça me choque qu'on accepte effectivement qu'une personne voilée puisse accompagner des enfants en déplacement scolaire. Parce que comment expliquer que c'est interdit dans l'enceinte de l'établissement, mais que si on est au contact des enfants en dehors et toujours dans le cadre scolaire, puisque c'est un voyage scolaire, qu'on l'autorise. À partir du moment où on l'interdit à l'école, pour moi, ça vaut pour tout le temps scolaire. Et le temps scolaire, c'est le temps qui est dans l'école, mais c'est aussi le temps d'une sortie scolaire. Et après, on va nous dire, et quand les élèves vont faire du sport et vont dans un gymnase ou ailleurs et qu'ils sont accompagnés, le problème se posera. Si on n'est pas clair sur ce sujet du voile, effectivement, l'ambiguïté fait qu'on se trouve dans ces situations conflictuelles.
Alors la règle est très claire aujourd'hui. Les mamans accompagnatrices lors de sorties scolaires ne sont pas des auxiliaires de services publics. Elles peuvent donc être voilées lors des sorties. Mais Cyril Graziani, en commentant cette affaire, une partie du gouvernement critique plus largement le port du voile.
Alors ils sont unis dans la condamnation, mais pas sur le fond de la question. Des voix gouvernementales se sont élevées après les propos de Jean-Michel Blanquer, considérant que le voile n'est pas souhaitable dans notre société. Soutien quasi immédiat d'une partie du gouvernement, Gérald Darmanin, Marc Fesneau, Bruno Le Maire. Et en même temps, d'autres voix ont pris à contre-pied cette ligne dure. La porte-parole du gouvernement a exprimé sa position personnelle, expliquant ne pas avoir de difficulté à ce qu'une femme voilée participe à une sortie scolaire. Si Bethel Ndiaye reconnaît surtout que le sujet fait débat au sein du gouvernement. La ligne présidentielle se rapproche plus des Blanquer & Co. Souvenez-vous, au Palais de Chaillot en avril 2018, interviewé par Edoui Plenel et Jean-Jacques Bourdin, Emmanuel Macron avait affirmé que le port du voile n'est pas conforme à la civilité dans notre pays, c'est-à-dire au rapport qu'il y a entre les hommes et les femmes. Depuis, on évoque un grand discours présidentiel sur la laïcité, tant de fois annoncé, tant de fois repoussé, mais c'est potentiellement inflammable dans une majorité fracturée par toutes ces questions.
Pas de pesticides à moins de 150 mètres des maisons à Langouette-Ille-et-Vilaine. Cet arrêté du maire avait relancé le débat et la controverse. La préfecture demande son annulation. La question était examinée au tribunal administratif ce matin à Rennes. Bonjour Sandy Dauphin.
Bonjour.
Rebonjour. C'est vous qui avez assisté à l'audience. Qu'est-ce qu'on retient de cette audience, Sandy ?
Écoutez, à sa sortie du tribunal, le maire de Langouette lance à la petite foule réunie pour le soutenir. Ce n'est pas gagné. Avant de se corriger, ce n'est pas perdu non plus. Une heure d'audience durant laquelle le rapporteur public estime que la municipalité n'est pas compétente pour prendre un arrêté anti-pesticides. Dans ses conclusions, Marie Touré insiste, il faut faire la différence entre ce qui est légitime et ce qui est légal.
Si les interrogations du maire sont légitimes, il n'a pas les pouvoirs de police spéciale juridiquement et il n'est donc légalement pas compétent pour restreindre l'utilisation de produits phytopharmaceutiques dans sa commune. Seuls les ministres de l'Agriculture, de la Santé, de l'Environnement et de la Consommation ont ce pouvoir de police spéciale.
Le rapporteur public conclut aussi qu'il n'y a pas de carence de l'État à protéger les riverains, puisqu'il a jusqu'à fin décembre pour prendre un arrêté national et se mettre en conformité avec le droit européen. Pas de quoi décourager le maire de Langouette qui a argumenté devant le tribunal avec un bidon de fongicide vide à la main. Daniel Cueff.
Le rapporteur public a dit quelque chose qui m'intéresse beaucoup, c'est que j'étais légitime, que c'était mon action était probablement légitime, mais pas légale. Ben je dis au président de la République, chiche, le droit c'est vous, changez le droit.
Le tribunal administratif de Rennes rendra sa décision dans 2 semaines. Il faudra s'attendre à d'autres audiences du genre, car plusieurs maires venus soutenir leurs collègues de Langouette ont pris des arrêtés anti-pesticides similaires et ils sont bien décidés à les défendre eux aussi devant la justice.
Et la FNSEA appelle de son côté un pique-nique à Langouette en cette mi-journée pour discuter avec les habitants. Allez, un sourire en cette actualité à nouveau bien chargée aujourd'hui. La semaine prochaine, 24 octobre, sort le nouvel Astérix, la fille de Vercingétorix. Toujours Jean-Yves Ferry pour les dialogues, Didier Conrad au dessin. Bonjour Jacqueline Pétrose.
Bonjour Bruno.
Vous avez quelques premiers détails. L'héroïne s'appelle Adrénaline. C'est la fille de Vercingétorix, une ado rebelle.
Alors, elle est grande, elle a une longue silhouette svelte, une grande tresse rousse, elle est habillée de noir. Cette ado en colère et éprise de liberté a des faux airs de Greta Thunberg. Elle a pourtant été imaginée bien avant, explique Didier Conrad. Alors, Adrénaline a surtout autour du cou le torque que lui a confié son guerrier de père après Alésia, ce collier honorifique que convoite bien sûr César. Alors, pour éloigner la jeune ado, les deux chefs arvennes qui l'ont en charge cherchent un bateau pour l'emmener à Londres. Ces membres du FARC, le Front Arverne de Résistance Chocrette, parce qu'ils sont vernis, ils chuchotent un petit peu, vont donc la confier au village d'Irréductible. C'est le point de départ des ennuis pour, bien sûr, Astérix et Obélix. Alors, pour leur 4e album, Ferry et Conrad donnent la parole à la jeunesse. On fait la connaissance de Blinix, le fils du poissonnier, de Selfix, celui du forgeron. Et il y a, bien sûr, les références à l'actualité avec la pollution et l'homoparentalité. Premier tirage prévu pour la fille de Vercingétorix, 2 millions d'exemplaires pour la France et 5 pour une trentaine de pays. Je vous rappelle qu'Astérix, depuis 1959, c'est 380 millions d'albums vendus dans le monde.
Et la sortie de celui-ci, c'est donc jeudi de la semaine prochaine. Merci Jacqueline. Le temps en Gaule.
La météo avec Région Job. Trouvez le job qui va vous faire aimer le lundi avec Région Job.
Gare aux orages, Élodie Calac.
De l'Aquitaine vers le centre, Poitou-Charentes, les Pays de la Loire, c'est agité. Des orages remontent du sud, des orages localement violents avec des averses parfois intenses, de la grêle, de fortes rafales de vent, jusqu'à 110 km à l'heure. Ce temps progresse en fin de journée et en soirée vers la région parisienne et le nord de la Seine, mettant fin aux éclaircies. Ces orages affecteront aussi le sud du Massif central et les régions méditerranéennes ce soir et cette nuit. Il faudra attendre demain après-midi pour voir une amélioration. Quelques averses se produisent déjà sur le Languedoc-Roussillon, quelques averses aussi sur la Bretagne, sous un ciel encombré. Sur les régions du nord-est et du centre-est, c'est calme et ensoleillé cet après-midi. Les températures sont très douces, souvent 22 à 27 degrés. Ça baisse sur la Bretagne, pas plus de 15 degrés à Brest.